I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. God bless white America.
C'est une histoire qui commence comme une blague. Nous sommes à la fin des années 70, dans la petite ville de Colorado Springs, aux États-Unis. Un policier noir, Ron Stallworth, infiltre la section locale du Ku Klux Klan après avoir lu une petite annonce dans le journal. 40 ans après, le réalisateur Spike Lee s'empare de ces putains de faits réels dans son film Black Klansman. 40 ans après, c'est-à-dire dans l'Amérique de Trump et après les émeutes de Charlottesville. Black Klansman a reçu le Grand Prix du jury à Cannes en mai dernier et il sort aujourd'hui au cinéma. On discute de ce film et de sa portée politique en première partie. Cinéma toujours en seconde partie avec le couple de réalisateurs Verena Paravel et Lucien Castantelor dont le documentaire Caniba sort aujourd'hui sur les écrans, un film sur Issei Sagawa, le cannibale japonais. Bonjour Karim Madani.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez publié en 2015 Spike Lee American Urban Story aux éditions Don Quichotte. Bonjour Jean-Baptiste Morin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Inrecuptibles et bonjour Luca Minizini.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à SoFilm. Vous avez tous les trois vu Black Klansman, le nouveau film de Spike Lee qui sort aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence par écouter la bande-annonce.
There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here.
Hello, this is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with?
This is David Duke.
Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke?
God. Last time I checked, what can I do you for?
Well, since you asked, I hate blacks.
I'm happy to be talking to a true white American.
God bless white America.
The KKK is planning an attack.
How do you propose to make this investigation?
We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face.
You for the white race, Ron?
Oh, hell yeah.
So there becomes a combined Ron Stallworth.
Can you do that?
With the right white man, we can do anything.
White power! Black power!
Knights of the Ku Klux Klan.
That's us.
Stallworth brothers.
We're on a roll, baby.
America first.
America first.
If I would have known this was a Klan, I wouldn't have taken this mother.
C'est la bande-annonce de Black Klansman qu'on écoute, où Spike Lee s'empare de ce fait divers que je résumais en introduction. Comment vous avez trouvé les uns les autres la manière dont Spike Lee s'empare de ce fait divers, Luca Minizini?
Spike Lee s'en empare donc comme il en fait un peu un film de combat finalement, où il prend ce fait divers, il prend ce qui cette histoire qui est finalement complexe quand on regarde le bouquin, donc les mémoires de Ron Stallworth qu'il a sorti en 2014, et lui il condense tout ça pour un peu faire un parallèle qu'on voit au fur et à mesure du film, un parallèle entre l'Amérique de Trump actuelle et toutes les dérives de cette Amérique de Trump qu'on a vu dans l'année passée en gros. Et il prend tout ça et il fait une sorte de conte, enfin un peu de farce, film comédie policière qui vise à défendre la cause qu'il défend depuis maintenant plusieurs dizaines d'années.
Et c'est une histoire qui ressemble vraiment, enfin, à une blague, quoi. C'est l'idée d'un noir qui infiltre le Ku Klux Klan. Est-ce qu'il y avait déjà, on a l'impression que le matériel comique était déjà là dans le fait divers et que pour Spike Lee, il y avait déjà quelque part une comédie. Karim Adani.
Je pense, j'avais eu un peu peur au début quand j'avais vu sur le papier que c'était une comédie policière, parce que je pense que, enfin, même si Spike Lee a eu des films, il y a beaucoup d'humour dans les films de Spike Lee, je pense pas que la comédie en tant que telle soit son, enfin, le créneau dans lequel il excelle. Mais en fait, ça marche. ça marche. Parce que, du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ça s'emboîte assez bien, l'espèce de drama, la comédie. Les acteurs aussi sont très bons. Je pense qu'il y a des moments de tension et des moments beaucoup plus drôles qui permettent un peu d'évacuer aussi. Et je pense qu'il y a, quelque chose de très ironique aussi, effectivement, pour un flic noir d'infiltrer le KKK. Mais je crois qu'il y avait une anecdote, il me semble, dans les années 60 ou 50, où Smokey Robinson, il me semble, avait joué avec son groupe dans un endroit complètement, la nuit, dans un endroit complètement désert, et en fait, ils ont commencé à voir des mecs arriver avec des torches et des cagoules, et en fait, c'était des gens du KKK qui étaient fans de Soul. Donc du coup, dans un registre différent, mais c'est vrai que c'est des situations qui peuvent paraître comiques, du coup, sur le papier, et je pense que il a réussi un truc là, et puis on en parlait tout à l'heure, je pense qu'aussi c'est le retour de Spike Lee en tant que réel, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi le grain de l'image. Je sais qu'il a tourné en 35 mm argentique, pour avoir ce grain très 70s, et j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film aussi, genre un peu à la Arthur Penn, un peu dans cette vague de cinéma-là, le nouvel Hollywood. Et je trouve que même d'un point de vue cinématographique, c'est le retour de Spike Lee, à la fois qu'il y a un discours qui est quand même beaucoup plus substantiel que ce qui nous avait servi avec Blackula, Sweet Blood of Jesus, qui sont quand même des navets. Et je pense qu'il arrive aussi avec ce, tu le disais, ouais, il y a le côté sur Trump. Bon, même si c'est des grosses ficelles, j'ai pas lu le bouquin. Le bouquin est beaucoup plus subtil, mais même avec ces grosses ficelles, je trouve qu'il y a quand même un côté militant qui revient, enfin, de Spike Lee qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Depuis, il me semble même depuis, j'allais dire Malcolm X. Il arrive avec ce truc.
Les années 90.
Ouais. Tout à fait, ouais.
Moi j'aime beaucoup le film, et c'est vrai que, comme le disait Lucas, c'est une farce, c'est vraiment plus qu'une comédie, quoi. Il en fait vraiment des tonnes. Cela dit, Spike Lee n'a jamais non plus été un cinéaste très fin, enfin je le dis sans aucune méchanceté, mais enfin il a toujours mis le paquet, et là il retrouve effectivement une forme qu'il avait pas mal perdu depuis une dizaine d'années, oui. Mais le film est très drôle, oui. C'est vrai que ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que toute cette enquête commence comme un canular téléphonique. Et à la limite, c'est pas très sérieux pour lui, enfin pour le personnage principal. Et puis que comme ça marche, ça finit par devenir une vraie enquête policière.
Il y a un effet d'engrenage, et justement l'intrigue joue de ce rapport racial, puisque donc le policier noir va devoir avoir recours à un alter ego blanc qui est incarné par Adam Driver, et on a l'impression aussi que la question raciale, même si elle est traitée de manière aussi frontale et politique par Spike Lee, elle est aussi tissée dans l'intrigue. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu relever aussi ?
Puis là, moi je voulais revenir sur l'alter ego blanc. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que c'est aussi un alter ego juif, parce que Adam Driver joue le rôle d'un flic juif. Alors il y a aussi cette... Du coup, c'est quand même les deux principales obsessions du KKK, il me semble, avec les communistes, il y a quand même les noirs, les juifs et les cocos.
D'autant plus que dans la réalité, c'était pas le cas du tout.
Dans le bouquin, apparemment, c'est pas le cas. Et du coup, c'est intéressant qu'il ait introduit ce personnage-là, qui permet d'avoir des très bonnes scènes, notamment la scène où il est sur le point de se faire démasquer, il lui sert un discours, justement, sur le révisionnisme, et l'autre est obligé d'avaler ça. Et à un moment, je crois qu'il y a une séquence entre les deux personnages, entre l'acteur qui est joué par le fils de Denzel Washington et Adam Driver, où il se dit jusqu'à quel point on est capable finalement de jouer le côté undercover, la couverture, jusqu'à quel point on est capable d'avaler ça et puis de dire ça. Parce qu'ils disent des choses quand même assez terribles.
Oui, mais il y a tout un jeu sur la langue aussi.
Tout à fait.
Et sur les clichés du langage supposé des afro-américains et puis des blancs. Enfin,
la manière de parler noir.
Notamment cette scène avec David Duke.
David Duke, c'est le directeur de la section nationale du Ku Klux Klan, qui est un personnage historique qui a vraiment existé.
Il y a une conversation qui est un peu surréaliste dans laquelle David Duke pense que les Noirs disent ouais comme ça, pas oui ouais. Alors ça c'est très drôle, parce que ça se retourne contre lui à la fin justement.
Ouais. Et en plus, quand vous disiez ça part d'un simple canular téléphonique et puis en fait ça s'emballe et ça devient sérieux. Et par exemple dans le livre, et c'est différent du film, à la fin, Ron Stallworth, donc le flic qui a lancé toute cette enquête, il se retrouve nommé à la tête du chapitre local du Ku Klux Klan. Et c'est pour ça que l'enquête s'arrête, c'est que les chefs de la police de Colorado Springs disent en fait là c'est plus possible, on va être dans l'incitation à la haine, donc légalement ça tient plus, on arrête tout. Et d'ailleurs t'en parles pas parce que ça peut pas se savoir que des flics, même si c'était pour une couverture, pour une enquête, que des flics aient été nommés à la tête d'une section locale du Ku Klux Klan, c'est impensable. Et c'est là qu'ils lui disent en fait tu vas détruire tous tes dossiers un par un, et que lui a pas du tout envie. Et donc dans le livre il décrit comment il met feuille par feuille dans la broyeuse et les dossiers les moins importants, et qu'ensuite son chef se barre de la salle pour aller vaquer à ses occupations, et que lui prend tous les dossiers, les ramène chez lui et les garde jusqu'en 2014 quand il décide d'écrire le livre. Et donc c'est que là, en fait, ouais, cette blague entre flics qui est devenue une enquête tout à fait sérieuse et même un peu enfin un peu dramatique, quoi, parce que même si ça a empêché des croix de brûler, il y avait ça a découvert un peu tout l'engrenage du Ku Klux Klan, toutes leurs opérations, et aussi le fait que des membres de l'armée américaine étaient membres du Ku Klux Klan à Colorado Springs, des membres des forces armées, et même de...
C'était une affaire qui allait assez loin.
Ouais, c'était une affaire qui allait assez loin.
Et est-ce que c'est pas aussi une manière pour Spike Lee de faire un film sur la fin des années 70 et de juger l'époque, enfin, c'est-à-dire au moment où ça sort, 2018, à l'aune des années 70? Et c'est-à-dire à un moment où, par exemple, le Ku Klux Klan avait pignon sur rue, et je pense à un passage notamment où quelqu'un dit aux policiers noirs que plus tard, les idées du Ku Klux Klan vont se normaliser, et là on pense immédiatement à Donald Trump, et il dit mais ça n'arrivera jamais. Enfin, il y a quelque chose dans l'humour aussi, sur une manière de juger la période. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi?
Bah oui, ça me semble évident. Enfin, je pense que c'est vraiment le but du film. C'est-à-dire que pour Spike Lee, rien n'a changé en réalité. La violence est la même. Enfin, il le dit d'ailleurs dans les interviews. Enfin, c'est assez clair que de toute façon, ce qui se passe. Alors évidemment, il y a eu les manifestations de Charlottesville, mais même le fait que beaucoup de Noirs se soient fait tuer par des flics, c'est la preuve que finalement c'est toujours la même chose. Enfin, que l'Amérique n'a pas changé, qu'elle a toujours un problème avec.
Oui. Je rebondis je viens de dire, quand on prend par exemple Do the Writing, le film de Spike Lee qui est sorti en 89, qui se termine par la mort de Radio Rahim, qui est joué par Bill Nunn, ce personnage qui a son ghetto blaster et qui se fait étrangler par la police. En 2014, Errol Garner à Staten Island se fait tuer pratiquement dans les mêmes circonstances. Du coup, effectivement, rien n'a changé. Enfin, et pourtant, on était sous Obama. Et sous Obama, il y a eu pas mal quand même de noirs tués par les flics, quand même, paradoxalement. Et du coup, c'est vrai que quelque part, rien n'a changé finalement là sur la violence urbaine, le ghetto, Chirac, je veux dire, le film qu'il a fait, c'est quand même contraction de Chicago et de Irak. Il y a 500 morts par an, la guerre des gangs à Chicago, qui est beaucoup plus, qui est plus meurtrière que la guerre en Afghanistan et en Irak. Effectivement, le constat, c'est que rien n'a changé. Sauf que là, il a vraiment, avec Trump, il peut se permettre, il a un personnage sur lequel il peut taper.
Il peut y aller à fond.
Très caricatural. Oui. Et du coup, j'ai trouvé que le David Duke était quand même plus inquiétant parce que.
Il est plus malin.
Moins évident. Oui. Ouais, tout à fait. À percer, dans les objectifs.
Après, moi, je me disais qu'il y avait peut-être une petite faiblesse dans le film, c'est que sur cette fin des années 70, en fait, j'ai l'impression que le contexte est peu décrit dans le film parce qu'en fait, il y a aussi. Il y a aussi beaucoup de groupes d'extrême gauche qui planifient des attaques, par exemple, à la même époque, que ce soit contre le Ku Klux Klan ou autres, d'ailleurs, et qui sont beaucoup plus décrits dans le bouquin, où, en fait, ils parlent de groupes comme le Weather Underground, enfin, des groupes qui étaient extrémistes de gauche, mais à tendance presque terroriste, qui avaient déjà posé des bombes, qui explosaient pas forcément, mais donc qui participaient un peu à ce climat de terreur, où il y avait les deux extrêmes qui ont émergé pendant toute cette décennie, et qui se regardaient en chien de faïence, en essayant de voir qui allait... qui allait attaquer le premier, quoi. Et ça, dans le film, je trouve qu'il l'occulte un tout petit peu, où il se concentre beaucoup, il se concentre beaucoup sur le Ku Klux Klan, et on a peu cet autre volet. On a que les groupes étudiants, mais qui sont...
Il y a les groupes étudiants noirs, voilà. Oui, mais les Black Panthers. Mais il y a une scène assez ambiguë, d'ailleurs, le discours, on a un discours d'un militant Black Panther, et j'ai trouvé cette scène assez ambiguë, j'ai pas été persuadé que Spike Lee était de ce côté-là aussi.
C'est vrai. Ouais, il semble pas être de ce côté-là, mais il est présent sous un jour très sympathique. Enfin, dans quelque chose où je trouve que il pourrait y avoir un tout petit peu plus de subtilité sur le fait qu'il y avait deux côtés. Ou évidemment, c'est pas comparable, mais il y a quand même. J'aurais aimé voir, c'est apparaître en tout cas même dans le discours, cet extrémisme de l'autre côté et le fait qu'ils étaient en conflit.
Il y a quand même le côté Black Power qui répond au White Power quand même dans le film. Du coup, ça peut être un peu troublant aussi. Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'entre les militants suprémacistes blancs qui disent White Power et de l'autre côté, les autres qui disent Black Power, à un moment, il montre quand même qu'il peut y avoir une confusion. Mais je pense qu'il en revient. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il revient aussi d'une certaine culture du militantisme. Il en revient. Il a 61 ans. Ouais. Il est passé par tous les trucs de Farrakhan, la Nation de l'Islam, tout. Je crois qu'il est un peu déçu, désillusionné un peu partout.
Par rapport au militantisme.
Ouais, par rapport au militantisme. Mais qu'il veut être plus dans une je pense qu'il a envie d'être, je pense qu'il y a Jordan Peele, comme on va à côté, à Real, qui est trentenaire. Et qu'il a envie de retrouver un peu une énergie de Real, un peu aussi corrosif et sans être étiqueté. Mais c'est d'accord, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais bien aimé retrouver aussi le côté... Parce que c'était comme l'époque de Patty Hearst, où il y avait les Weatherman, Patty Hearst qui était l'armée
symbionique.
Ouais, l'extrême gauche, Symbionese Army. Même dans le côté, les frères de Soledad en Californie, avec les gars qui avaient pris des juges en otage dans des prisons... qui est hyper violent en fait, qui est une et je trouvais qu'il y avait un côté quand même comme il avait fait dans Crooklyn, il y a aussi ce côté 70s avec la musique, les costumes, les afros et tout qui est hyper drôle, qui est assez bien fait. Et il y a presque un côté après je sais pas si par contre l'histoire d'amour avec Patrice est vraie.
Parce que le policier tombe amoureux d'une militante Black Panther.
Ouais, mais finalement, cette histoire n'est pas vraie.
Elle n'est pas vraie.
Mais d'ailleurs, elle n'est pas très vraisemblable dans le film. Je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Enfin,
elle ressemble à Angela Davis. Ouais, c'est un peu une espèce d'icône. Quoi. Oui.
Mais je suis assez d'accord. Je trouve qu'il idéalise un peu aussi cette période des années 70 avec tout le look, comme si c'était vraiment...
La Blaxploitation
aussi. Tous les films de l'époque. Mais je ne suis pas sûr que... Il faille vraiment idéaliser cette décennie non plus à ce point-là.
Ouais, notamment dans la scène où il est avec Patrice, justement, il rejoue une scène de Superfly, il me semble, dans un parc, et je crois qu'il y a une... Ouais, c'est des clins d'œil beaucoup trop appuyés, je trouve.
Il pourrait s'en passer.
Ouais, complètement, ouais.
Je vous propose qu'on écoute la voix de Spike Lee à Cannes, où il parle de Donald Trump.
We have a guy in the White House, I'm not gonna say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given a chance to say we are about love and not hate. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers.
C'est la voix de Spike Lee en conférence de presse à Cannes. Il parle de Trump, même s'il il fait le choix de ne pas citer son nom. Et après les événements de Charlottesville, et il dit que Trump n'a pas dénoncé le fait qu'il y ait des membres du clan, de l'alt-right et des néo-nazis. La particularité de Black Klansman, c'est que le film colle à la fin de cette comédie policière, et qui finit d'ailleurs un peu en happy end, des images des émeutes de Charlottesville et des émeutes raciales. Comment vous avez ressenti ce montage-là, Jean-Baptiste Morin?
Je trouve que c'est un peu, c'est ce que vous disiez, c'est que ça crée un contraste quand même assez fort avec le ton du film, surtout avec la fin du film. Il nous balance ça un peu maladroitement. Enfin, je trouve que c'est pas ce qu'il y a mis dans le film. Voilà. Je trouve que après, je comprends très bien le message. Enfin, c'est une fois de plus pour dire que les choses ne changent pas, que ça continue, que la lutte doit continuer. Mais c'est vrai que le fait de façon quand même assez assez maladroite, oui, c'est ça, et violente. Enfin, c'est ce que je disais, oui.
Lucas Minizini. Ouais.
En plus, vu que le film aux États-Unis est sorti le 10 août, c'est-à-dire un jour avant ou après, je ne sais plus exactement au niveau de cette date anniversaire, entre guillemets, évidemment, j'ai l'impression que c'est comme si, c'est vraiment l'élément le moins subtil du film, parce qu'en fait, dans le film, il y a déjà tellement de petits signes qui font le parallèle, qui sont très clairs quand il y a le personnage de Ron Stallworth qui dit heureusement que ces idées-là se retrouveront jamais à la Maison Blanche et qui rigolent tous avec un rire un peu gras. En fait, c'est impossible d'éviter ce clin d'œil à l'Amérique de Trump, et donc de les remettre comme ça à la fin, des images qui sont en plus très violentes, qu'on passe même pas à la télé dans des JT parce qu'elles sont trop violentes, et de les avoir comme ça un peu sur grand écran après une comédie policière. Je sais pas, je trouve que
c'est peut-être un effet qu'il a voulu créer.
Non, bien sûr. Ouais, je pense probablement, mais il y a, je sais pas, moi j'ai trouvé ça pas forcément utile, et même ça m'a sorti complètement de l'ambiance du film, qui joue un peu sur ce, on sait pas s'il faut rire, on rigole, mais on est un peu gêné de rire. Et là, pour le coup, c'est juste une scène tragique qu'on revoit un an plus tard et qu'on avait vu traîner sur Internet et dans des documentaires Vice. Mais
Karim Madani, comment vous les avez reçus?
Un peu pareil. Mais je me dis que c'est quand même, c'est un peu un excès. Enfin, c'est un excès d'un mec habitué aux excès, quoi. Mais je trouve que, je pense que c'était pas nécessaire. Parce c'était pas nécessaire. Et puis c'est vrai qu'il y a une brutalité de changement de ton, là. Je préférais quand il montrait des images de mecs flingués à Brooklyn, dans Clockers, au générique du film, où il montre plein de gamins. Des images d'archives, ouais, plein de gamins. Des images de la police, il me semble, de Brooklyn, où tu vois plein de gamins assassinés, et ensuite, le film commence, mais on est dans le bain. On sait que ça, voilà. Mais là, je trouve qu'il y a un côté genre hyper démonstratif et genre appuyé. Enfin, vraiment, genre on n'a pas compris, quoi. Peut-être le spectateur. On a compris au bout d'une heures de film, on a bien compris le propos. C'était pas la peine d'en rajouter, quoi.
Ouais. Jean-Baptiste Morin, vous vouliez dire quelque chose?
Non.
Mais ce qui est particulier aussi, c'est dans cet affrontement qu'il met en place, c'est-à-dire où d'un côté on peut avoir les Black Panthers, enfin le Black Power contre le White Power, et je pense à une séquence où il y a vraiment un montage face à face, on voit une réunion du clan où les gens scandent White Power et décrivent pourquoi les Blancs sont la meilleure race du monde, et en face il y a une scène assez poignante où on a le témoignage d'un personnage qui est joué par Harry Belafonte et qui parle d'un fait historique avéré qui est une scène de lynchage au début du 20e siècle. Et j'ai lu dans la presse qu'on a pu parler de manichéisme, et ça m'a pas semblé ça du tout. Enfin, c'est-à-dire il y a vraiment une scène où on sait de quel côté Spike Lee se situe. Enfin, dans ce récit contre récit, on voit très très bien où est-ce qu'il se situe. Non.
Non, je vois avec ce discours, enfin cette scène où il fait tout le récit d'un lynchage avec tous ses étudiants réunis autour de lui, avec ce personnage interprété par Harry Belafonte, sachant que Harry Belafonte était le compagnon de route de Martin Luther King, il y a quelque chose de symboliquement fort. En plus, un acteur qui a jamais collaboré avec Spike Lee, donc il y a vraiment une sorte de ça a l'air d'être pour l'occasion, et c'est un tout petit rôle, donc pour l'occasion, pour cette scène précise qui a une valeur symbolique et qui est un peu en plus arrive à un moment charnière du film avant. Tout l'enchaînement dramatique vers cette explosion de voiture, etc. Enfin, c'est quelque chose de très. Je pense que oui, c'est assez clair le côté duquel. Quel côté se situe Spike Lee. C'est...
Oui, mais enfin, après, le manichéisme, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut défendre les suprémacistes blancs? Enfin, je veux dire, ouais. C'est. Mais de la subtilité là où il n'y en a pas, c'est toujours un problème. Enfin,
oui, non, bien sûr.
Donc, après, j'ai lu quelque part un truc intéressant, c'est qu'en fait, ce montage parallèle serait aussi, en fait, une allusion à la naissance d'une nation, enfin, plutôt, en fait, à Griffith lui-même, qui est l'inventeur du chant contre chant. Et donc, ce serait aussi une manière formelle de critiquer, enfin, en tout cas, de récupérer le cinéma blanc, enfin, les techniques inventées par Griffith, qui est quand même considéré comme un des fondateurs du cinéma.
Oui, Griffith est au cœur de Black Klansman. Oui. C'est aussi pour Spike Lee un moyen de régler ses comptes avec l'histoire du cinéma. Donc le premier long métrage qui retraite l'histoire des États-Unis et où le clan a une place importante. Est-ce que aussi, ouais, c'est une manière pour Spike Lee de parler de l'histoire du cinéma, ou en tout cas de faire du cinéma politique au sens où il replonge dans l'histoire du cinéma. Vous l'avez perçu comme ça, Karim Madani?
Ouais, un petit peu, ouais, complètement. Ouais. Je pense que par rapport à Naissance d'une Nation, et puis même déjà un peu en germe dans Intolérance, le premier Griffith, il y avait quand même ces premières pierres et tout. Mais ça me fait penser parce que à ce morceau de Public Enemy avec Ice Cube qui s'appelait Fuck sur Hollywood, justement sur la place des Noirs à Hollywood. Il me semblait que dans un projet de Spike Lee, je me souviens plus duquel, où justement il disait, ouais, il y en a marre, plus de 150 ans de représentation du noir à Hollywood, et finalement, il va falloir vraiment qu'on prenne ça au sérieux, parce qu'il y a un vrai problème. Et du coup, dans la manière de décortiquer tous les, enfin, pulvériser, dynamiter tous les stéréotypes, je pense, de l'image du noir au cinéma. Spike Lee a fait, comme a joué avec ça pendant pratiquement sur ses meilleurs films. Et je crois que c'est assez important. Et puis moi, sur Harry Belafonte, par contre, je trouvais ça assez drôle qu'il ait... Parce que je me souviens d'un vieil interview de Spike Lee dans lequel il disait que Harry Belafonte, Sidney Poitier, c'était pas des acteurs... C'était des acteurs trop... qui n'étaient pas assez véhéments pour lui, qui n'étaient pas assez...
Pas assez politiques.
Pas assez politiques, ouais. Et c'est marrant qu'il...
De toute façon, il a toujours été plutôt du côté de... comment il s'appelle, Malcolm X, que du côté de Martin Luther King.
Même si la fin de Do the Right Thing laisse à penser qu'il y a quand même une espèce de synthèse qui est possible. Dans les deux discours là, qui terminent le film, il y a une synthèse qui est possible. Mais je pense qu'il est quand même plus Malcolm X, ouais. Par contre, moi, sur le personnage de... C'est Elrich Leiber, non, qui parle, vraiment... Enfin, dans le personnage du représentant du Black Power dans le film, c'est qui est joué par le type de qui a fait Dr. Dre, je crois. Mais je pense que le Eldridge Cleaver, le vrai, je pense qu'il était beaucoup plus virulent que ça. Là, il en fait quand même un type quand même relativement fréquentable.
C'est Carmichael.
Carmichael, ouais. Ouais. Exactement. Et du coup, je trouve que même le côté Black Panther, parce que les Carmichael et les Cleaver, c'était quand même des fous furieux. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et là, il y a quand même un côté showman, il y a quand même un côté battleur. On se dit, c'est cool, mais c'est pas crédible. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il a voulu jouer aussi avec ça, peut-être.
Mais
prendre de la distance aussi avec le mec, quoi.
Ouais, même dans le livre, cette scène de discours du Carmichael, En fait, c'est là dans le film, on voit toutes des gens, des étudiants un peu gentillets qui sont là pour se cultiver, alors que dans le livre, il décrit en fait une ancienne boîte de nuit où il y a un peu, il y a à la fois les étudiants qui veulent se cultiver, mais par contre, il y a aussi toute un peu la lie de Colorado Springs qui sont là un peu par hasard, où t'as les macs de la ville, t'as les prostituées, les piliers de bar qui sont là par hasard, enfin un truc beaucoup plus hétérogène que ce qu'on voit dans le film. Et je pensais juste à La naissance d'une nation, et peut-être que je me trompe, mais je crois aussi que Spike Lee était un peu traumatisé par ce film quand il était à l'université.
Oui, il l'avait vu à l'université.
Oui, ouais. Mais on lui avait présenté un peu comme voici les fondements du cinéma, mais sans remettre du tout en cause la dimension sociale du film. Et à côté de ça, on lui avait présenté un film de propagande du Troisième Reich.
Leni Riefenstahl. Ouais.
Et là, on lui avait dit, par contre, il faut pas oublier que ce réalisateur était nazi, mais c'est important à la construction du cinéma. Il était là, mais par contre, Naissance d'une nation, il y a aussi des questionnements et personne. Personne ne le remettait en cause, en tout cas dans ses professeurs. Et lui avait fait un projet d'école, je crois, où c'était un jeune réalisateur. Enfin, le personnage était un jeune réalisateur afro-américain qui voulait un peu refaire un remake de Naissance d'une nation et qui se cassait les dents dessus, en fait. Et apparemment, un projet qu'il avait presque fait virer de la New York University. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais ça avait l'air en tout cas, ça avait l'air de lui tenir à cœur de parler de ce film.
Dans Black Klansman, moi, il y a une scène qui a retenu mon attention, c'est qu'on est dans une telle logique d'hystérisation autour des races, autour des blancs et des noirs, qu'il y a le personnage d'Adam Driver dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est donc le policier infiltré qui se fait passer pour un Ron Stallworth blanc, qui lui est juif, et il dit qu'au début qu'il n'est pas religieux et qu'il ne veut pas justement être dans le combat, mais il y a un moment de vertige où finalement tout est tellement hystérisé autour des races qu'il dit je me mets à me poser des questions sur mon identité. J'ai trouvé cette scène assez comique. Vous l'avez reçu comment?
Non, mais c'est effectivement intéressant. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre que c'est.
Enfin, c'est surtout pour interroger aussi le point de vue nous, Français, on reçoit ce film aussi et cette question des races aux États-Unis, qui est vraiment hystérisée, je dirais. Non, Karim Madani.
Alors moi, je ferais plus un parallèle avec les gangsters rappeurs juifs de Brooklyn, là, les Goons, parce qu'ils sont c'est des juifs qui ont vécu, des mecs du quartier de Brooklyn qui vivent dans des HLM où il y a que des noirs et des portoricains. Et c'est vrai que la question de la religion ne revient jamais, quoi. Justement, ils sont juifs dans le quartier, mais ils sont pas religieux. Et dans un contexte où peut-être à Brooklyn dans les années 90, ça se posait moins. Mais je pense que là. C'est vrai que cette scène, même aussi, elle m'a un peu interloqué. Parce qu'à un moment, c'est vrai que le type, c'est juste... Enfin, au début, on découvre que c'est un flic blanc, surtout. On sait pas que c'est un flic juif. Et là, à un moment, il y a une vanne, un truc... Et là, il se met à se dire, mais finalement, je suis... Et c'est vrai que, effectivement, parce que tout est poussé au paroxysme. Il faut se définir. Alors, les définir comme dans l'espèce de négritude, blanchitude, judéité, ça, c'est... Et Adam Sandler, on sent vraiment qu'il s'en... Enfin, il s'en bat. Enfin, Adam Driver, attends. Il s'en bat les reins. Vraiment, il s'en fout, quoi. Fait d'être, enfin, on sent que ces questions, c'est un flic infiltré, il fait son boulot. J'ai bien aimé aussi je pense qu'aussi le fait que ce soit un flic noir et du coup un flic juif, ça fait référence à toute cette historique entre noirs et juifs pour les droits civiques, où les juifs et les noirs étaient hyper proches, c'était des combats qui étaient communs, les juifs ayant, de par leur histoire, compris très vite que c'était quelque chose dans lequel il fallait être partie prenante, parce que c'était de l'oppression. Et ça, c'est aussi ce clin d'œil. Après, c'est parti en vrille dans les années 70 avec le Bronx, les logements insalubres, tenus beaucoup par des propriétaires juifs, mais parce qu'ils avaient investi là-dedans. Et il y a une rupture. James Baldwin en parle pas mal, mais à un moment, il y a une rupture entre les Noirs et les Juifs dans les 70s. Et là, peut-être il y a aussi ce clin d'œil. J'ai bien aimé cette histoire de, finalement, buddy movie, quoi. Un peu naïf, certes, mais qui est le flic noir, le flic juif, et on... Qui va se mettre une botter le cul au caca, quoi. C'était assez drôle.
Après, ouais. il y a peut-être un petit côté sartrien, effectivement, l'idée que c'est l'antisémite qui fait juif. Donc, et le flic, en fait, il n'avait jamais eu affaire au caca, et tout d'un coup, il les rencontre et il se rend compte de ce que c'est, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Merci à tous les trois. Merci Karim Madani, merci Luca Minizini et Jean-Baptiste Morin. Black Landsman, le film de Spike Lee, il sort aujourd'hui sur les écrans. Et on peut lire le témoignage de Ron Stallworth, donc la vraie histoire derrière Black Landsman, qui a été publiée aux éditions Autrement.
كاين وانا رحلك ولا رضا سواك حبيبي فؤادي يتلالا خداك ويلمع ضواك يتمايل خساك وما حمل قواك حبيبي فؤادي ويا مساوي البدر يا حبيبي هو ولا يسواك لحظك يا سكيني بحق من سواك حبيبي فؤادي الحب لولاك يا منعش روحي ويا مانا هلاك حبيبي فؤادي عندي ليك هدية حبيبي رفقان بمرحباك حبيبي فؤادي وانا ارضى انا
Vous écoutez France Culture, il est 13h18, on écoute le titre Tabar Awak de Kamal Kayla, extrait de l'album Muslims and Christians qui est paru récemment sous le label Habibi Funk Records.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
Bonjour Vérina Paravel, pardon.
Bonjour.
Bonjour Lucien Castin-Taylor.
Bonjour.
Vous êtes réalisateurs tous les deux et votre film Caniba, votre documentaire, sort aujourd'hui sur les écrans. Il donne à voir un corps malade, celui du japonais Issei Sagawa, tristement célèbre pour s'être livré au cannibalisme dans les années 80. Vous êtes allé le filmer dans son appartement de la banlieue de Tokyo où il vit encore. Je vous propose qu'on commence par une archive.
Pour les spécialistes japonais, Sagawa, le cannibale qui vient de sortir de l'hôpital, n'est même pas un malade mental. Après son horrible crime, le meurtre d'une néerlandaise de 25 ans et son acte de cannibalisme consommé pendant 4 jours, nos psychiatres avaient dit il était totalement fou au moment de son acte. Sagawa avait découpé la jeune femme en morceaux et il l'a mangée pour consommer son amour pour elle, avait-il dit. Des membres d'une télévision privée se sont rendus au Japon et ont ramené un document pour mieux comprendre un tel acte.
Le cannibalisme, ce n'est pas des choses horribles, ce n'est pas le criminel, pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Par exemple, si on met nos bébés dans le noir, ils crient. Pourquoi ils crient? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Ils demandent le contact avec quelqu'un d'autre, surtout sa mère. Justement, c'est une façon de contacter avec quelqu'un d'autre, surtout avec quelqu'un qu'il aime. Donc, mon cannibalisme, c'est justement pareil. Je voulais sentir l'existence que j'aime. Je vous touchais, je vous sentais plus fortement.
C'est la voix de Issei Sagawa, extrait d'un journal aussi des années 80 sur le, donc ce fait divers où il s'est rendu coupable d'actes de cannibalisme et il a donc mangé entre autres une de ses collègues étudiantes à la Sorbonne à Paris 3. Verena Paravel, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste d'Issei Sagawa?
Alors c'est une série de coïncidences, hein, comme à peu près tous les films qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on a eu une commande en fait pour faire une œuvre d'art, une commande d'une fondation d'art contemporain pour aller faire un travail sur l'anthropocène, sur le désastre de Fukushima en particulier. Et avant de partir au Japon, on s'est dit c'est quand même une opportunité. D'ailleurs, on doutait parce que c'est quand même assez compliqué d'aller travailler sur Fukushima alors qu'on n'habite pas dans le pays. Donc on s'est armé d'autres idées avant de partir. Et donc on était à Harvard tous les deux à ce moment-là et on a rencontré un jeune professeur. Super intéressant de Harvard qui est spécialiste d'un genre de cinéma japonais qui s'appelle le Pinko Ega, donc c'est des films de sexploitation. Ça n'existe qu'au Japon. Super intéressant historiquement puisque en fait il y a des cinémas qui sont dédiés qu'à ça au Japon. Tous les plus grands cinéastes japonais, Kurosawa compris, ont commencé comme ça. Donc on fait leurs premières armes là. Avec ce genre-là qui est très libre et qui nécessite peu de ressources. Donc voilà, on a découvert ce genre-là, on a rencontré tout un tas de réalisateurs, dont un des plus fous, une espèce de malade qui est le plus violent, le plus misogyne, avec qui on a mangé 2-3 fois, parce qu'en fait on a rencontré tout un tas de gens là-bas, parce qu'on y a passé quand même pas mal de temps. Et Sato Isayasu, en discutant avec lui, on se rend compte que un de ses acteurs et un de ses amis n'est autre que Issei Sagawa. Et moi, bien évidemment, ça me fait pas Lucien parce qu'il est voilà, il est anglais comme ça. Mais moi, j'avais 10 ans et
vous souvenez de ce fait divers.
Ah, mais un cannibale dans l'esprit d'une petite fille de 10 ans,
c'est quelque chose.
C'est quelque chose. Voilà. Donc tout d'un coup, je me rends compte que c'est lui. Et voilà. Puis après, voilà, on se rend compte que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de réfléchir à ces questions, que la subjectivité d'un cannibale est jamais prise en compte en fait, parce que même si c'est un objet d'étude classique de l'anthropologie, en fait, c'est jamais vraiment pris au sérieux dans la subjectivité cannibale. Bien sûr du cannibale.
Quel type et donc il jouait dans ces films-là, Issei Sagawa, ouais. Il était acteur.
Ouais, il a joué dans des films. Il a joué. Bon, vous savez, il a fait tout un tas de choses. Il a vécu de son crime hein, pendant longtemps. Donc, il a une galerie d'art. Il peint. Il a été critique culinaire dans des restaurants de sushi. Il a fait des pubs pour de la viande. Enfin, il est allé vraiment. Il a poussé l'abject en fait. C'est vraiment
la récupération de son acte.
La récupération de son acte qui lui-même vit comme une punition en fait. Donc, c'est une espèce de châtiment. En tout cas, il l'exprime comme ça. Mais voilà, il en a joué. Il est devenu ce personnage public. Et il a joué effectivement dans des films de Sato Isayasu, notamment un film qui s'appelle The Bedroom, je crois, qui est une adaptation du roman de Kawabata, Les Belles Endormies, qui se trouve être un de mes livres préférés. Et où il joue le rôle d'un cannibale. Donc, c'est vrai que.
Et quand est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait la matière pour un film ?
Tu veux pas parler, Lucien ?
Lucien Castantel.
Ouais.
Je pense qu'on ne sait jamais. C'est vrai qu'on avait d'autres projets en marche au Japon. Donc au début, c'était le projet Sagawa, c'était quelque chose qu'on voulait faire à part. Mais on a rencontré Sagawa-san d'abord.
Vous l'avez rencontré d'abord,
finalement. Oui, et on a mangé ensemble un énorme déjeuner de sushi. Et je pense qu'on était 8 ou 9 personnes et je pense qu'il a mangé 3/4 de ce qu'il y avait très, très lentement. Mais on ne se rendait pas compte qu'il était aussi malade. Donc on se doutait, il parlait presque pas. Il pouvait manger à mort, mais il pouvait pas faire grand chose d'autre. Il parlait presque pas. il fait la chronique, il parlait dans des espèces de fragments de haïku, des fois en français, quelquefois en anglais, mais plutôt en japonais, on parlait pas japonais. Mais il était très très fragile, donc on se demandait si ce serait possible de tourner un film avec lui ou sur lui. Et effectivement, on a passé à la fin peut-être vers 5 semaines chez lui, dans sa petite maison. Et je pense que après quelques jours, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait de la matière assez riche, hyper difficile, hyper compliquée sur le plan éthique, philosophique, même cinématographique, mais qu'il y avait quelque chose là assez importante, hyper dérangeante, sur lequel il fallait qu'on insiste.
Mais vous n'êtes pas parti avec l'idée d'avoir un film. Vous avez juste tourné dans son appartement et vous avez filmé son visage sans vous dire qu'il y avait de la matière pour un film.
C'est-à-dire qu'on sait jamais, parce qu'on travaille sans script, on travaille sans a priori. En tout cas, on essaye de travailler sans a priori, sans script. Et en fait, c'est un peu l'équivalent de faire de la recherche, mais avec du son et de l'image, en fait. Et on a jamais de contraintes de temps, c'est-à-dire qu'on se donne jamais un an ou deux pour faire un film. Il y a pas de limite, en fait. Il y a jamais de limite, mais d'ailleurs ni éthique, c'est-à-dire qu'on cherche, quoi. On est tout le temps en train de faire de la recherche avec la caméra. Donc non, on savait pas s'il y avait un film, on savait pas ce qui nous attendait. La seule chose qui nous intéressait vraiment, c'était d'essayer d'avoir un regard sur lui qui soit différent de tous les portraits
médiatiques
qui en faisaient ce monstre. C'est que des représentations archi sensationnalistes qui nous intéressaient peu, et on avait envie de voir s'il était possible de questionner cette question de l'anthropophagie, qui est une question qui est quand même importante dans la mesure où elle nous concerne tous, puisqu'à un moment donné de l'histoire ou de la préhistoire, on a tous des ancêtres cannibales. Ce qui fait que quand même, aujourd'hui, même si le cannibalisme a été complètement effacé, il y a des résurgences, où il existe sous des formes beaucoup plus symboliques, on va dire, avec toutes ces affinités, notamment avec la spiritualité, la sexualité. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on mange le corps et le sang du Christ, voilà, puis sur des actes plus sexuels, même d'ailleurs, boire le lait de sa mère, ou absorber du sperme, ou une transplantation cardiaque, de rein, on est quand même dans une forme quotidienne, en fait, de para-cannibalisme, ou de sous-cannibalisme, ou de, je sais pas comment on dirait, de péri-cannibalisme.
Et est-ce que l'anthropologie, justement, parce que vous êtes anthropologue de formation, a pu vous servir à vous débarrasser, justement, des a priori en filmant Sagawa? En tout cas, d'éloigner l'étrangeté, le fait d'éloigner le monstre.
Je ne sais pas si c'est l'anthropologie qui a produit cet effet, mais pour moi, c'était plutôt en faisant de l'observation participante, en passant du temps avec lui, que son, même s'il a fait un crime plus mal qu'on peut imaginer, quand même, il reste quand même un être humain, il reste un membre de notre espèce, quoi. Ça, c'est assez évident. Je pense que on était, même si tous les deux, on est formés comme anthropologues, comme ethnologues, moi, j'avais lu les études sur l'anthropophagie il y a 20 ans, il y a 30 ans, donc on les a relues, mais on ne les a pas trouvées très discernantes, très intéressantes, très...
Très convaincantes.
C'est pas qu'ils n'étaient pas convaincantes, mais comme Verena disait tout à l'heure, les études ne s'intéressaient jamais à la phénoménologie, au vécu du cannibale. C'était que la signification rituelle, culturelle, ou plein de questions sur est-ce que le cannibalisme est vraiment aussi répandu, est-ce que c'est que dans les crises où on a besoin des protéines, des choses comme ça. Mais on ne pense jamais au désir, effectivement.
Je vous propose qu'on écoute un extrait de votre film Caniba.
En réalité, le cannibalisme, dans la mesure où il exprime une relation à l'autre, est toujours impliqué dans les relations politiques entre groupes, tout simplement, et il est un moyen d'expression.
Pardon, on s'est trompé de son. Je vous propose qu'on écoute un extrait de votre film Caniba, avec la voix d'Issei Sagawa.
どうしても狂ってると思います。je pense que vraiment parce que
c'est la voix d'Issei Sagawa qu'on entend. On l'entend parler en japonais et un peu en français. Il dit « je pense fou », enfin « je pense que je suis fou ». Quel rapport au langage il avait particulièrement, notamment dans le changement de langue entre le japonais, le français et l'anglais? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué?
Tu veux répondre
Verena Paravel.
Alors, effectivement, il pouvait passer d'une langue à l'autre, mais je pense que la façon qu'il avait de s'exprimer, moi, ce qui nous a frappé le plus, c'est pas sa capacité de passer de l'anglais au japonais au français, mais c'était à la fois sa présence et tout d'un coup son éloignement. Enfin, c'est-à-dire que c'était quelqu'un, on sentait qu'il avait des moments où il était extrêmement présent avec nous, avec une force très dérangeante, d'ailleurs dans son regard. Et puis tout d'un coup, il partait. En fait, il bascule. En fait, il bascule en arrière. C'est quelque chose qu'on a, je pense que c'est ce qui ressort à la fin dans la façon dont on a choisi de monter le film. Qui est d'ailleurs une grande critique de plein de gens sur la façon dont on a cadré. Puisque
c'est en plan extrêmement rapproché.
C'est en plan extrêmement rapproché.
Sur les visages.
Sur le visage, exactement. Et comme si il pouvait pas nous échapper. Parce que je pense qu'on se sentait complètement aussi piégé en sa présence et on n'avait pas envie de se cacher derrière des choses. On avait vraiment envie de regarder et d'essayer de le comprendre, cet homme. Mais aussi, non seulement c'est des plans rapprochés, mais c'est aussi parfois flou. C'est-à-dire qu'on l'a pas suivi et on n'était pas esclave.
La caméra ne le suit pas, par exemple, quand il sort du cadre.
Exactement. C'est-à-dire quand il sort du cadre ou quand il se recule un petit peu sur son fauteuil, on aurait pu, de façon un peu, on n'a jamais été esclave en fait de la mise au point ou de lui-même. C'est-à-dire qu'on l'a laissé s'échapper. Où on l'a laissé revenir à nous. Et un peu comme les fluctuations de sa conscience. Et je pense qu'il partait avec le langage de la même façon. De temps en temps, il parle comme des haïkus. Enfin, vous avez vu le film, de temps en temps, il dit des mots comme ça, désir, pulsion. Donc vraiment, on est dans une espèce de récitation, de poésie, de bribes, de mémoire. Il a une façon très, très particulière de s'exprimer, mais aussi d'être présent. Qu'en fait, on a essayé, nous, de capturer comme ça et de garder.
Est-ce que vous diriez que ça a été une épreuve, ce tournage? Ou en tout cas, ces séances avec Sagawa? Lucien Castin-Taylor.
Je pense que c'était assez éprouvant pour tous les deux. Je ne sais pas si c'était éprouvant pour lui. Il était hyper fatigué, mais je pense qu'il était pas content, mais il a réagi de façon assez intéressée d'avoir une chance de s'interroger ce qu'il a fait il y a longtemps, il y a quelques décennies maintenant. Et ça fait longtemps depuis qu'il n'est plus sur les médias. Mais pour répondre aussi à votre question précédente, je pense, sur la question de langage et tout ça, je pense qu'il parlait peu parce que, vu le sujet, c'est pas une question qui est très facile à articuler dans le discours. Et contrairement au plupart, peut-être malheureusement, des films narratifs et surtout des documentaires qui privilégient les paroles. Nous, les êtres humains, on est les êtres somatiques, on est les êtres corporels, affectifs, avant d'être les êtres signifiants ou linguistiques. Et je pense que la plus profonde partie de notre être, c'est quelque chose qui est assez difficilement articulé en langage. Et je pense que, effectivement, c'est cette espèce de basculement entre ce qui est dit et non dit, et ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire, qui fait le sujet propre du film. Et c'était aussi éprouvant pour nous, le tournage, parce qu'on ne parlait pas japonais. Donc, on était là avec un collaborateur japonais qui a aussi enregistrer le son, mais on lui a demandé exprès des fois de ne pas traduire parce qu'on n'a pas voulu comprendre, on n'a pas voulu savoir ce qu'il était en train de dire. On a cherché une autre approche, une autre espèce de rencontre qui n'était pas médiée que par le langage.
L'autre personne qui est présente dans la pièce et qu'on voit beaucoup dans votre film, c'est son frère. Le frère de Issei Sagawa. Quelle place il occupait, lui, pendant les séances de tournage?
En fait,
parce qu'on l'entend, il commente souvent ce que dit son frère, ouais. Il répond, il lui pose des questions. Enfin, il est omniprésent, il est de plus en plus présent dans le film.
C'est ça, mais c'est exactement comment ça s'est... C'est la façon dont ça s'est passé quand on y était. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait même pas connaissance de son existence. On est arrivé la première fois chez lui, on découvre que c'est son frère, qu'il est là. On n'a pas vraiment idée de qui il est, et de jour en jour, en fait, il se révèle. Donc il passe du silence à prendre une place énorme et à essayer même de dominer tout et de prendre la place. Si bien que le film n'est d'ailleurs pas un film sur le cannibalisme, c'est un film d'une relation... shakespearienne, fraternelle, d'amour et de haine, de perversité. C'est vraiment une relation d'amour-haine entre deux frères. Voilà, qui en dit long sur plein d'autres choses d'ailleurs, sur les hommes. Ça questionne vraiment ça. Mais c'est vrai que June, on savait pas qu'il existait. Et c'est vrai qu'ils ont profité tous les deux, les frères, de nous. Comme déclencheur, révélateur, et pour se parler, pour la dynamique qui s'est installée entre eux deux, dépendait de cette tierce entité qui était nous, et de notre présence. Donc ça veut dire que June, le frère de Issei Sagawa, lui a révélé qu'il avait aussi une pathologie,
une perversion.
Un hobby, comme il dit. Et puis, il s'est montré le manga.
C'est une perversion qu'on voit dans le film. C'est-à-dire, on le voit pratiquer une forme de scarification sur le bras.
Oui.
Comment se sont passées ces séances-là? C'est quelque chose qu'il a l'air de faire très spontanément et de manière, qu'il explique de manière assez pédagogique.
Oui.
Plutôt glaçant. Ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait comme ça, on ne savait pas. Il nous a dit un jour, est-ce que vous pouvez me suivre? Moi aussi, je veux vous montrer quelque chose.
On savait qu'il avait des tableaux chez lui, qu'il était peintre, plus ou moins dans les manières de Degas, ouais. Un peu comme les peintures de Renoir qui sont sur le mur de son frère, Sagawa. Il vit 50 mètres derrière de son frère, mais il passe toute la journée chez Sagawa-san. Donc il a dit, est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Moi, je n'étais pas sûr si c'était les tableaux ou si c'était autre chose. On est arrivé chez lui, il a commencé cette espèce de...
Non, mais déjà, on est arrivé, il y avait des fils barbelés partout qui nous attendaient et un lit rempli de couteaux. Donc on ne savait pas si c'était pour nous entortiller, nous tuer, nous planter des couteaux. Vas-y, continue.
Non, on avait peur, effectivement.
On avait un peu peur, on a demandé à Nao... qui prenait aussi du son avec nous et qui traduisait de temps en temps, on lui a dit de ne pas traduire. Et on a laissé. On a laissé se dérouler, on ne savait pas ce qui nous attendait.
Ce qui se passait.
Ouais. Et oui, c'était assez compliqué ce tournage parfois.
Il y a des images qui sont, qu'on peut qualifier d'insoutenables dans Caniba. Je pense notamment à des images d'un manga qui a été édité par. Publié par Sagawa lui-même, on voit des dessins où il a représenté son crime, c'est-à-dire son crime de cannibalisme. Je pense à d'autres images d'extraits de films pornographiques et ces scènes de scarification de son frère. Et je pense que c'est ça qui vaut au film d'être interdit au moins de 18 ans. Et est-ce que c'est une notion que vous aviez, que vous avez découvert en tout cas en cours de travail, cette notion de filmer l'insoutenable? Lucien Castin-Taylor.
Pour moi, l'extrait du film, disons pornographique, c'est pas vraiment du hardcore, c'est pas insoutenable. C'est un peu dégueu, mais c'est pas insoutenable. Et pour moi, le manga, j'ai jamais vu quelque chose pareil dans l'histoire de l'art. dans l'extrémité du manga, dans l'espèce de jouissance dans l'objet. C'est vraiment extraordinaire. Je connais rien de sa sorte. Je pense aussi, enfin, je pense que le sujet du cannibalisme est maintenant tellement refoulé que le sujet même, c'est insoutenable. Même si, comme tu as dit, ça fait partie de préhistoire de nous tous, et même si ça ressurgit de façon métaphorique dans la sexualité et la spiritualité, encore toujours dans la guerre civile de nos jours, quoi. Mais je pense aussi qu'on était, même si c'était éprouvant le tournage et aussi le montage, on était aussi un peu anesthésié par la caméra et aussi par les enjeux de tourner un film avec lui. Pas anesthésié sur le plan éthique, mais sur notre propre sensibilité, c'est un peu moins insoutenable peut-être. Mais on n'a pas voulu faire un film de choc ou faire un film sensationnaliste, complètement le contraire, mais on n'a pas voulu éviter un sujet assez important, toujours de nos jours, on a voulu déborder un sujet qui est a priori non abordable, d'être en face de ça et de voir ce que ça donne.
De voir ça. Compte,
de voir ça, oui.
C'est une question d'image aussi. C'est-à-dire que le Sagawa a dessiné un manga. Enfin, il y a la question des images qui est assez fréquente. Il y a notamment des moments où il parle des films de Disney. Qui est des moments assez étranges, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y a toute une réflexion, en tout cas, qui est déployée autour de l'image, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on ne peut pas voir, de ce qui est innocent et de ce qui n'est pas innocent. Est-ce que vous aviez conscience de travailler aussi cette chose-là, en tout cas, en tant que cinéaste? Verena Paravel.
Non, je sais, c'est son univers, c'est-à-dire que c'est l'univers de Sagawa, c'est Bambi, c'est Blanche-Neige, c'est Cendrillon, c'est des femmes nues, c'est...
Tu penses vraiment? C'est qu'il entourait pas ces espèces d'images, ils disent que c'est sur l'univers, mais tu y crois vraiment?
Non, je crois rien. Je sais pas. Finalement, j'ai autant d'interrogations.
Pour moi, c'est notre espèce d'alibi qui est soutenue par tous les frères.
Mais il s'endort avec des peluches.
Il a des peluches.
Ouais, il s'endort avec des peluches. Il se fait border tous les soirs et il s'endort avec des peluches. Il s'accroche à ses peluches. Et tu vois que le manga... On dit le manga ou la manga? J'ai jamais su.
Je dirais le manga.
Le manga.
On vérifiera.
Moi, je dirais là.
Toi, tu dis là.
Mais on dit les deux, alors.
Allez. Je crois que c'est l'objet le plus troublant... Moi aussi que j'ai jamais vu, mais c'est aussi parce que il dessine d'une façon complètement enfantine, et je pense que c'est le mélange de cette violence extrême, inouïe, avec cette naïveté et ce dessin de quelqu'un qui a 5-6 ans, et donc il est dans cet univers à la fois enfantin, mais aussi c'est vrai, c'est un être tellement complexe, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs on cherche pas à répondre à quoi que ce soit comme question. C'est tellement compliqué, c'est abyssal comme questionnement, je veux dire, de savoir ce que c'est, pourquoi on devient cannibale ou des choses comme ça. Mais j'ai pas répondu du tout à la question des images. Je sais pas si je sais y répondre.
Je sais pas si c'est vraiment une question d'image. Je pense que c'est le sujet tout court.
Ouais. C'est le sujet en lui-même. Ouais. Ouais. Ce serait pas les images qui seraient en jeu.
Non.
Dans Moby Dick, je me rappelle à un moment donné. Herman Melville, il parlait de the universal cannibalism of the sea, le cannibalisme universel de la mer. Mais il aurait pu parler du cannibalisme universel de la terre. Et contrairement à ce que Sagawa-san disait dans son extrait, que c'était un acte d'amour, que c'était un crime, et ainsi de suite, vu le monde, comment ça va tellement mal de nos jours, on peut... Ces questions sur le cannibalisme universel de la Terre sont aussi importantes. On n'aborde pas ces questions directement, mais je pense qu'en faisant un film comme ça, sans mettre en avant nos perspectives, nos idées, je pense que quand même ça ouvre les vitres, les fenêtres pour aborder ces questions sur la violence qui est aussi inhérente à l'humanité que l'amour.
En réalité, le cannibalisme, dans la mesure où il exprime une relation à l'autre, est toujours impliqué dans les relations politiques entre groupes, tout simplement, et il est un moyen d'expression de la crise politique qui existe. Et c'est pour ça qu'il est à la fois volatile, parce que les crises politiques peuvent être volatiles, et qu'il est en même temps général. Le cannibale qui a un captif en face de lui se trouve face à un choix, ou le manger, ou l'adopter. Ce qui revient à exprimer le fait que de toute façon, il a affaire à un égal en face. Tandis que le civilisé qui se trouve face à un captif en fait un esclave, mais non seulement il demeurera esclave, mais son fils sera esclave, et ainsi de suite, parce que on opposera la nature de l'esclave, et donc on pense l'autre en termes d'infériorité. On ne peut pas manger celui qui est inférieur, parce que c'est un domestique. On voudrait que le cannibale soit bestial, alors que aucune société ne considère le fait de manger l'autre comme anodin. Il y a toujours énormément de réglementations, comme pour la prohibition de l'inceste, d'où le fait que Lévi-Strauss s'y intéressait.
C'est la voix de Georges Guy Escuret, anthropologue en 2012, une archive de France Inter dans la marche de l'histoire. Comment vous la recevez, Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor, cette parole-là?
Je sais pas, de toute façon, c'est juste un commentaire. Je pense qu'il y a plein de formes de cannibalisme. En fait, j'ai écouté, mais j'ai écouté d'une oreille, parce qu'en fait, j'ai été très troublée par... non pas par ce que je viens d'entendre là, mais par le premier extrait que vous avez passé tout à l'heure en ouverture d'émission, par la voix de Sagawa, moi, qui m'a bouleversée en fait. Et j'étais en train de réfléchir à ça, au lieu d'écouter comme une bonne élève notre collègue. Il a dit quelque chose, il a dit c'est un bébé pleure, il a besoin de, quand il est dans le noir, non pas parce qu'il a peur du noir, mais parce qu'il a besoin de contact. Chose comme ça. Et je suis un peu troublée comme ça, parce que je pensais que, justement, dans le cas de Sagawa-san, il y a quelque chose de l'ordre de la communion, en fait, chez lui, où il cherchait vraiment la communion. Et donc, voilà, j'étais dans ces pensées-là. Il cherche le contact, il cherche la communion. Et voilà, bon, j'étais en train de réfléchir à tout un tas de choses autour de ça.
Non, je pense que effectivement, c'est beaucoup plus complexe, quand tu t'es bien compris. Je pense qu'il y a tout un spectrum d'actes et de désirs et de processus cannibale qui part peut-être d'un côté des actes de piété ou de self-sacrifice, de auto-sacrifice, quand on mange les parents ou quand les parents te mangent, ou tu manges une partie des corps suivant les génitaux des parents, ou bien et ça passe jusqu'à, donc c'est un acte de communion, c'est un acte de piété, et à l'autre bout du spectrum, il y a des actes de violence, d'agression, de pouvoir, de contrôle, c'est un acte de piaculum ou d'expiation ou de montrer ta force, ta puissance vers l'ennemi, la conquête.
C'est toujours un rituel.
Et c'est souvent ritualisé, c'est effectivement ritualisé. Mais je pense que nous, on oublie qu'on a tous les rituels, quoi, mais ils sont souvent moins conscients qu'on y croit chez les autres.
Votre film se conclut par une ouverture vers l'extérieur. Pourquoi ? Avoir choisi de mettre ça à la fin, dans le montage, on voit Sagawa dans les rues.
Vous savez, les trois quarts des questions chez nous se résolvent dans...
Ça s'est fait comme ça.
Au montage. Non, mais je pense que c'était pour sortir de ce huis clos étouffant. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle, comme il le dit lui-même. C'est vrai que c'est un film éprouvant, où on est très proche de lui. On peut pas lui échapper. Comme on peut pas échapper d'ailleurs à cette question, et tout le monde essaye, de toute évidence, on l'a vu depuis le début du film, essaye d'échapper à cette question de notre cannibalisme. Voilà, c'est une sortie vers ce miracle que lui voit.
Merci Verena Paravel, pardon, et Lucien Castin-Taylor. Votre film Caniba sort aujourd'hui sur les écrans. Merci à Oriane Delacroix, Camille André, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Anne Toscane Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Alexandre Fougeron était à la réalisation. Et aujourd'hui au son, c'était Jacques Hubert. Il est 13h49 sur France Culture. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'enquête historique de Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre.